En flux libre, l'émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 7e épisode d'Enflux Libre, nos petites aventures libristes et libertaires. J'ai retenu.
T'as trouvé le mot cette fois, nickel.
Ouais, j'ai trouvé le mot et j'ai un peu de mal la semaine dernière. J'ai toujours beaucoup de mal, surtout cette semaine et encore plus ce dimanche, mais on va essayer de faire l'émission.
Et on commence tard aujourd'hui.
Oui, on commence très tard, on devrait plutôt vous dire bonsoir, mais puisqu'il est 21h18 à nos montres.
Voilà.
Donc voilà, on est au chaud, on est tranquille, on est bien.
Ouais, il fait bon, ouais.
Et vous l'avez. Oui, on a bien mangé en plus.
Merci, Gisla.
Non, mais c'était pas cuit au départ, par contre, c'était ma faute, j'avais pas sorti de poisson. Vous l'avez déjà entendu, il a même pas. T'as pas eu la permission de parler, hein. C'est à moi de parler au départ. Hein.
Pardon. Plus rien, monsieur.
À genoux. Non, j'ai regardé. Pour m'accompagner dans ce podcast, Alain. Salut, Alain.
Salut, bonsoir à tous.
Bonjour. Moi j'ai fait l'effort de dire
bon,
bonjour.
Ah bon, c'est bonjour alors.
Tu vas me les bouffer toi les 4 minutes de générique.
Hein, bah allez, vas-y, enchaîne.
Comment ça va?
Mais écoute, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça pourrait aller mieux, mais bon, allez, si on fait l'émission, ça veut dire que ça va.
Voilà, exactement. Voilà,
ça fait notre petite bouffée libriste de ces dernières 2 semaines. Au sommaire aujourd'hui de notre 7e épisode en plus libre. TZ sortie d'affaires, Adobe qui abandonne le développement sous Linux, ou en tout cas plus ou moins le développement, même complètement d'ailleurs.
Oui, ils arrêtent. Ouais.
Ils arrêtent complètement. Un point ACTA, évidemment.
Ah bah oui.
Voilà, on ne fait pas Adopi chez nous, mais on aime bien ACTA. Google et Microsoft qui veulent ajouter des DRM au HTML5. Et enfin, la Commission européenne qui va soumettre ACTA à la Cour de justice. Dans le focus, nous parlerons de Linux from scratch, LFS. Pour les intimes, gros sujet et très très intéressant d'ailleurs.
Ouais.
La Dégeek s'occupera de vous dégeekaliser au SI.
Ozzy.
Oui, Ozzy. Alors ça va parler à personne, tu vois, on annonce ça de bloc, Ozzy.
Le modèle Ozzy.
Ouais, voilà.
C'est du réseau.
C'est du réseau. Voilà, en gros, c'est du réseau. Et
mais
enfin.
Pas que.
Mais pas que, c'est vrai. Et enfin, nous terminerons notre sélection en flux libre par quoi, Alain?
Je sais pas.
Mais oui, j'étais en train de me dire, tu nous as fait quoi tout à l'heure là? Tu nous disais, oui, moi je vais vous trouver quelque chose, mais.
Non, bah j'ai pas encore trouvé, mais on va trouver, hein.
Oui, d'accord, oui. Y a pas de souci. Sinon, l'émission s'arrête juste derrière la Dégeek, hein.
Ouais, ça serait dommage.
Ça serait dommage. Allez, gadjons qu'on aura trouvé quelque chose d'ici
mais
là.
Oui.
T'as intérêt, hein.
Excuse-moi,
mais là je coupe pas, hein. Ah, écoute, tu m'as dit hier, moi je te trouve quelque chose pour la sélection. Ok, y a pas de souci.
Ah oui, mais je pensais me libérer beaucoup plus tôt ce dimanche. Je suis rentré assez tard.
Oui, mais pas 11 ans de se libérer, dis donc. Allez, c'est parti. 7e épisode dans la bonne humeur dans Flux Libre, l'émission du libre et des libertés informatiques génériques.
En Flux Libre, l'émission du logiciel libre et des libertés informatiques. Présenté par Alain Devarieux et Ghislain Larose.
Ce générique, le temps qu'il
se termine,
qu'il se décante. les news dans Flux Libre avec la toute première, TZ sortie d'affaires. Qu'est-ce TZ et qu'est-ce cette sortie d'affaires? Explique-nous tout, mon cher Alain.
Alors, je vais reprendre l'histoire depuis le début.
Je t'en prie, on est...
Il y a quelques temps de ça, une société d'édition de bouquins d'astrologie qui s'appelle Astrolab a déposé plainte contre contre les gens qui s'occupent de TZ, TZ Data, on appelle ça aussi Zone Info. C'est une base qui est utilisée pour savoir n'importe où on est dans le monde, quelle heure il est, tout simplement. La date qu'il est, l'heure qu'il est, etc. Il y a énormément de logiciels libres notamment qui utilisent ça, Java, MySQL, PostgreSQL, toutes les différentes distributions Linux, BSD, etc. l'utilisent. Windows l'utilise pas, ils utilisent leur propre système à eux. Donc cette société a estimé que la base de données TZ s'inspirait de leur bouquin qui s'appelle AC International Atlas et ACS American Atlas. Et ils ont décidé du coup de poursuivre les deux personnes qui s'occupent principalement de TZ Data pour contrefaçon. Voilà. Encore une bonne idée, on voit le truc venir de loin, tiens j'ai besoin de pépettes, ça fait longtemps que j'ai pas vendu un bouquin, je vais porter plainte contre quelqu'un.
Il n'y a pas de Microsoft ni d'Apple derrière, on précise.
Non, il n'y a pas Microsoft, il n'y a pas Apple derrière, c'est vrai. Du coup, suite à ça, donc l'EFF, j'ai un petit peu de mal ce soir, dis donc, l'Electronic Frontier Foundation, qui est une structure qui défend la liberté d'expression, notamment sur Internet, a décidé de s'occuper, donc déjà dans un premier temps, de défendre les deux personnes qui s'occupent de TZ Data, et a également décidé de porter plainte contre Astrolab pour procédure abusive.
Et puis, ce qui est logique.
Ce qui est un petit peu logique, c'est vrai, puisque en fait, il s'avère que les données utilisées dans les bouquins d'Astrolab sont des données historiques, factuelles. Donc, il ne peut pas y avoir vraiment de copyright dessus, quoi. C'est comme si, le soleil est rond. Je dis le soleil est rond et quelqu'un porte plainte contre moi parce que le soleil est rond. C'est factuel.
Il y en a qui ont dit donc, que la Terre était ronde, se sont fait quand même brûler. Hein.
C'est vrai.
Tu m'excuses, mais et on remonte qu'à 4 siècles derrière nous. Donc,
oui, c'est
bon.
C'est clair. Récemment. Récemment, Astrolab a dit qu'ils ont décidé de retirer leur plainte parce que, après une étude un petit peu approfondie du dossier, ils se sont rendu compte que oui, peut-être, éventuellement, ils s'étaient trompés. Voilà, donc ils ont retiré leur plainte, l'affaire est terminée, TZ Data, les serveurs FTP de TZ Data ont été relancés et on va pouvoir continuer de savoir librement quelle heure il est sur nos machines GNU Linux. Voilà pour cette petite news sur TZ Data qui se termine plutôt bien du coup, donc ça fait plaisir. Quoi.
C'est un peu encore une fois du bruit pour rien quoi finalement.
Exactement, ouais. Exactement.
Parce que ils savaient qu'ils n'étaient pas dans leurs droits et que...
C'est ça, ouais. Parce que
ils allaient perdre en fait.
Voilà, j'imagine mal une société d'édition déposer une plainte sans avoir étudié le dossier avant. Ça me paraît surtout que bon, c'est le genre de société qui embauche des avocats qui savent quand même plus ou moins ce qu'ils font. Si c'est pour 2 mois après le dépôt de plainte se dire en fait on s'est trompé, c'est qu'il y a quand même un souci quelque part, ou alors qu'il y a eu une tentative d'abus. Voilà ce que j'en pense. En parlant d'abus, on peut enchaîner sur Adobe qui abuse un petit peu.
Tu crois qu'ils abusent ?
Oui et non.
Bon, on va quand même faire la news parce que personne va comprendre à notre charabia. Notre enchaînement dantesque, tu m'enchaînes
dantesque.
Quand même. Enchaîne-moi quand même, tu vois. Adobe abandonne complètement.
Adobe abandonne
Merci.
Quasi complètement le développement de Flash sous Linux.
Merci Alain.
Va falloir que je te fasse une
formation
de la radio.
Formation transition.
Non, il y a pas de souci. Merci. c'est tombé un peu comme un coup près, mais je pense que tout le monde s'en doutait plus ou moins, puisque après que la société a eu le souhait d'arrêter le développement de Flash sous la plateforme Android. Donc de ne faire que des mises à jour de sécurité et de certificats pendant 5 ans. Et bien là, c'est carrément un système d'exploitation pour desktop, en l'occurrence celui qui sur lequel on s'intéresse le plus, les systèmes GNU Linux. Donc le plugin Flash ne sera plus développé, mais bizarrement, mais c'est là où est la surprise,
ouais.
C'est un partenariat avec Google. Bon. En fait, il n'y aura plus de Flash, mais disons que ça s'arrêtera à partir de, donc après la publication de la version 11.2, il n'y aura plus de Flash, mais juste une mise à jour des,
de sécurité.
Pendant 5 ans. Donc après ça, peut-être que je sais pas moi, les différentes technologies de l'internet requiriront telle vidéo, voudra un autre flash, on pourra pas lire sur notre plateforme.
Voilà.
Mais là où est l'histoire bizarre, c'est que Google a signé donc un partenariat, plutôt Adobe a signé un partenariat avec Google, disant en fait développer ce plugin Flash pour leur navigateur.
Voilà, il sera inclus en dur. Chrome.
Mais ce n'est pas du Flash, ce n'est pas, enfin, c'est pas comme ça qu'ils l'appellent. Mais c'est un, d'après ce que j'ai pu comprendre, une interface de programmation qui s'appelle Paper.
Ah oui.
Et peut-être que tu connais un peu plus qu'est-ce que c'est exactement.
Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais justement, je me rappelle avoir vu ça, ouais, Paper. Je connais pas du tout, par contre.
Donc voilà. Mais ceci dit, d'ailleurs, Google proposera donc un lecteur Flash sur cette fameuse interface de programmation Paper, de manière uniforme sur chaque système d'exploitation installé et sur chaque navigateur. Ça voudra dire que quelqu'un qui aura un Windows, un Mac OS X ou un Linux aura exactement le même Paper, le même Flash, quoi.
D'accord.
Mais pour ce qui nous intéresse, notre partie à nous, Chrome effectivement est sous Linux, c'est un fait. Malheureusement, on sait tous que il y a aussi d'autres navigateurs sous GNU Linux, donc il y a Firefox,
notamment.
Et Firefox.
Firefox n'aura plus Flash.
Voilà, donc Firefox s'est dit ne pas être intéressé par Paper. Il l'a déjà dit. Il a même, je crois, il y avait eu un petit mot sur leur blog ou je sais plus. Je crois qu'il y avait un développeur qui avait dit ça. Il n'est pas intéressé par le développement de Paper. Donc, solution alternative, en sachant que le HTML5, alors bon, il y a différents commentaires qui ont dit que 5 ans, ça laisse encore le temps. Mais bon, 5 ans, en 5 ans, on sait que le HTML5. On va en parler tout à l'heure. Si on commence sur des choses comme justement la news d'après,
oui.
Ça risque de patiner un peu dans la semoule. Donc 5 ans, on va peut-être être obligé à terme, pour celui qui a envie de simplement profiter de vidéos sur un blog ou sur une plateforme de vidéos, de profiter d'installer Chrome. Alors évidemment, il y a en dessous de Chrome, il y a Chromium, donc qui est la version open source, qui sert en fait de base au projet Chrome, et qui n'existe que sous Linux, parce que Chromium n'est pas sous Windows. On peut pas mettre de Chromium sous Windows. Ah non. Alors là, le Chromium sous Windows, ou alors je crois qu'il faut le construire, je sais plus
quoi.
Ouais, ah non, il y a absolument pas de Chromium sous Windows. Donc voilà, est-ce que ça sera implanté dans Chromium pour ensuite être mis dans comme Chromium sert de base de développement? Est-ce que je sais pas. Pour ma part de libriste, pourquoi pas? Moi, je dis oui, c'est bien. Moi, j'arrive très bien à me passer de Flash. Il y a des alternatives, très intéressantes, notamment dans Totem pour lire des vidéos YouTube ou pour récupérer même des vidéos directement avec des extensions dans Firefox.
Ouais.
C'est très possible.
Et puis de toute façon, enfin, sur le site d'Enflux Libre, par exemple, il y a un player
HTML5
pour lire donc le podcast. On n'a pas intégré du flash dedans. Il y a une balise audio qui existe,
qui est
super facile à utiliser.
Trois lignes, je crois, non?
Ouais,
trois lignes à coder.
Il y a une ligne pour ouvrir la balise, une ligne pour mettre l'adresse du podcast, et puis une ligne pour fermer la balise. En vidéo, c'est exactement pareil. Il suffit d'intégrer. Il y a une balise vidéo. On fout son lien avec la vidéo dedans, et puis c'est parti, mon kiki. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une utilité. En tout cas pour les vidéos, à continuer d'utiliser Flash.
Voilà, pour les vidéos.
Parce que quand
mais...
on voit, moi j'ai pas une machine super puissante, et ben lire une vidéo Flash, déjà en HD j'oublie.
Oui. Hein? Oui, mais déjà toi t'as quand même un circuit qui n'est pas fait pour décoder la HD. Attention.
Non, bien sûr, ouais, mais
déjà ton circuit d'avance n'est pas fait pour.
Oui, c'est sûr, ouais. Voilà, mais une vidéo en 480p par exemple, donc
du mal
pas
à
du
passer.
HD. Déjà, oui. Attention, quoi.
Oui.
Hein, ça rame sévère.
Oui, oui.
Et puis je vois, enfin, j'ai des amis qui utilisent des Mac aussi, pareil, et qui ont tendance à vouloir lire des vidéos sur YouTube en Flash et qui ont deux navigateurs ouverts avec 15 000 onglets du Flash partout, ça rame sévère, quoi. Enfin, Flash au niveau
ça fait monter le
du processeur, c'est incroyable.
À l'époque où le plugin 64 bits était encore un plugin expérimental,
oui.
Ça pouvait faire quand même grimper le monitor système de la machine, donc les taux d'utilisation du processeur, ça pouvait faire grimper jusqu'à 90%.
Ouais, voilà, ouais.
Chose qui était à 30% de base et qui d'un coup montait à 90%, donc qui montait en flèche, qui surchargeait.
Ouais.
Et même encore aujourd'hui, je regarde, Flash ne passe pas sur mon PC. Et pourtant, j'ai un PC
plus
puissant que le tien, qui sait décoder la HD, qui est relativement récent. Et qui ne sait pas, enfin, en plein écran, c'est juste une horreur.
Voilà,
quoi.
C'est ça,
juste une horreur.
Et puis, je suis aussi quasi persuadé. Enfin, c'est même, je pense sûr, j'ai aucune preuve là-dessus, hein, mais la qualité du plugin Flash sous Linux est quand même bien dans ça. De
bah oui.
Celle sous Windows.
Ah oui, clairement, quoi. clairement. De toute manière, on est un peu les seconds couteaux, hein.
Oui.
On est un peu les seconds couteaux. Alors effectivement, ils le disent d'ailleurs très bien chez Adobe. Hein, alors oui, effectivement, on n'avait que 0,5% des gens qui téléchargeaient en mettant sur le site « j'utilise Linux et j'utilise tel truc APT pour Ubuntu, Yum pour patati patata ». Et c'est l'excuse à deux balles. C'est l'excuse à deux balles.
C'est-à-dire que ça leur coûte extrêmement cher en développement. Pour un nombre d'utilisateurs pas élevé du tout, mais je pense qu'ils ont été plus ou moins obligés d'avoir quelque chose, un flash fonctionnel sous Linux, parce que les Linuxiens, en général, sont des gens plutôt technophiles, souvent, et ont tendance à pousser des technologies qui leur sont utiles. Donc, s'il n'y avait pas eu Flash sous Linux, la technologie HTML5 ou des choses comme ça aurait été poussée beaucoup, beaucoup plus vite, je pense. Voilà.
Bon, voilà, en tout cas, on sait que...
On a bien digressé.
Oui, on a bien digressé. Oui, mais bon, c'était important peut-être de faire une petite... pareil, il me semble que d'ailleurs le plugin R qui permettait en fait de faire des applications riches n'est plus développé, ne serait plus développé non plus. Hein.
D'accord.
Donc
okay.
En fait, Adobe, bye bye. En gros, il restait Flash et R. Bon bah, hein, dehors. Ça vaut mieux comme ça. Prochaine news, Alain, c'est
le point ACTA.
Le point ACTA avec les manifestations.
Et oui, parce qu'il y avait des manifestations. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc c'était hier, samedi 25 février, un petit peu partout en Europe, comme les manifestations du 11 février, je crois, c'était.
Oui, c'était le 11. On a enregistré le 12.
Oui, exact. Voilà. Donc alors ces manifestations-là ont rameuté moins de monde que la dernière fois. Déjà, la dernière fois, c'était pas folichon, en tout cas en France. Hein. Donc à Rennes, il y a deux semaines, on avait 350 personnes à peu près. Là, il y en avait 200. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a 200 personnes selon l'AFP, 60 selon West France.
Il y a quand même une différence entre 200 personnes et 20 personnes et ouais, 60
ouais,
personnes.
Ouais,
hein.
quand même.
Faut clair. Exagérer non plus.
Donc Paris, il y avait environ 700 personnes. Et puis sinon, c'était une cinquantaine, une soixantaine de personnes dans la plupart des autres villes. 100 personnes à Lyon, 150 à Lille. C'est dommage qu'il n'y ait pas une grosse... qu'il n'y ait pas tant que ça de monde qui se sente en danger, en fait, avec ACTA. Puisque, bon, on en a parlé hein, déjà la semaine dernière. Par contre, si on va dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne, il y avait 4000 personnes, 2000 à Munich, 2000 à Hambourg, voilà. Donc, Autriche, 3000 personnes à Vienne. Donc voilà, là par oui. contre, il y a déjà plus de monde, ça commence à compter quoi.
Mais je vais rebondir en fait tout à fait sur ce que tu as dit.
Ouais.
Où effectivement, il y a plus de personnes en Allemagne. Où là effectivement, si on regarde la situation actuelle de l'Europe sur est-ce que lui est signataire ou lui n'est pas signataire.
Mm-hmm.
Effectivement, en Allemagne, il n'y a pas de signature.
Non.
Voilà.
Voilà.
Pas de signature. En fait, quand on regarde il y a une excellente carte que je vous invite à consulter sur numerama.com où effectivement, je croyais que j'avais mon voilà. Où effectivement, on voit que on a les pays qui sont toujours en ratification programmée, d'autres qui sont mis en pause, d'autres qui n'ont pas de signature. On voit quand même que la majeure partie de l'Europe est toujours en ratification programmée.
Oui. Mmh.
Donc dedans, on compte l'Irlande, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce,
Suède.
Ouais, la Norvège-Suède. Et les pays, tout ce qui est pays un peu plus à l'est, effectivement, bah, les ratifications sont mises en pause. Donc la Slovaquie, voilà. L'Estonie, les Pays-Bas, Chypre et l'Allemagne. Et donc 6 autres pays ont aussi mis en pause donc ce processus de ratif, puisque donc il y a eu la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Lettonie. Donc voilà, ouais. ça suit son chemin petit
doucement.
À petit, doucement.
Mm-hmm.
Je peux presque m'avancer qu'en France, tant qu'on n'a pas eu d'élection présidentielle,
Ça n'avancera pas.
Je mm-hmm. pense que on restera ferme et décisif sur ce traité. À voir après, derrière l'élection, s'il y a quelque chose qui est décidé. Mais ça, c'est une autre histoire et ça ne nous concerne pas beaucoup. Et tu vas nous parler.
J'enchaîne directement
sur la Commission européenne qui va soumettre ACTA à la Cour de justice. Dis-nous tout, Alain.
Eh bien, la Commission européenne donc a décidé avant même de commencer à discuter d'ACTA, puisque donc avant que ACTA soit discuté dans les parlements nationaux de chaque pays européen, il faut que ça passe d'abord par la Commission européenne. La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on appelle aussi la CJUE, pour savoir si ACTA n'était pas incompatible avec les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'Union européenne. Parce que il faut savoir donc en plus de ça que la Cour de justice de l'Union européenne a déjà pas statué là-dessus, mais a déjà dit plusieurs fois que le copyright, en tout cas le droit de copyright n'est pas au-dessus, le droit d'auteur, pardon, n'est pas au-dessus des autres droits. Donc il faut voir à ne pas mettre des moyens trop forts pour protéger les droits d'auteur et surtout des moyens qui ne vont pas brider les autres droits les autres droits que nous avons, notamment comme la liberté d'expression et la liberté d'information. Donc la CJUE va bientôt statuer là-dessus. On s'attend a priori a une réponse plutôt défavorable de la CGUE, c'est-à-dire qu'elle devrait dire que ACTA, c'est pas terrible, terrible. Mais ceci dit, ACTA sera sans doute, suite à ça, rediscuté, adouci, pour essayer de nous faire passer la pilule un petit peu mieux. Et il faudra rester attentif.
Je pense, oui.
Voilà.
Ils vont, par un moyen ou par un autre, même si effectivement on vous parle de cours de justice, de pays qui ne veulent pas ratifier, voilà, on se demande si ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau et que finalement...
Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'Union Européenne, hein,
il y a les États-Unis, le Japon, et il y avait quand même 39 pays sur
voilà,
la table. Et je veux bien croire qu'on est 27 dans l'Union Européenne. Reste quand même 12 pays ailleurs dans le monde,
voilà.
Je les ai plus totalement en tête, donc voilà, on n'est pas les seuls, mais en tout cas si l'Union Européenne réagissait d'une même et une seule voix unique, effectivement, moi je fais plutôt confiance à l'Allemagne qui n'a pas été ratifiée, qui n'a pas de ratification programmée de toute manière. Apparemment on a des bonnes relations avec Playmobil, tu sais, Playmobil, et puis la grosse Angela. Non, ok, d'accord. J'arrête mes conneries parce que alors là, je vais mettre tout le monde à dos, le CSA, le machin.
Voilà.
Voilà. Et puis demain, on va frapper à ma porte à 6h du matin. Et puis.
Le GIGN.
Ouais, le GIGN. Je t'en prie, Alain.
Oui, donc on enchaîne les news alors, toujours.
La dernière
news, Google et Microsoft veulent ajouter des DRM au HTML5.
C'est dur le sucre, moi j'ai au micro. Alors là, vous venez d'assister quand même en quasi direct à Alain qui mange un sucre devant le micro. Mais quelle horreur, Alain.
L'idée du siècle.
Oh, c'est pas vrai. Oh, Alain, s'il te plaît, quand même, un peu de retenue. Attends, la pause, elle est dans quoi? Dans même pas 4 minutes, là.
Ok, non, d'accord.
C'est la dernière news. Oh là 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 là, mon Dieu. Il est tellement en moque, je suis pas
non,
de
mais
club,
j'ai le sucre devant moi, là.
Non, mais,
et au bout d'un moment, j'ai tapé dedans.
Le sucre, il est là. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Bon, allez, dernière news, parce que je sens que c'est très dur. On a beaucoup digressé. J'ai la lumière dans la figure. On a beaucoup digressé sur ACTA, encore une fois.
Voilà.
C'est le point ACTA. Et donc, on repart de HTML5, comme je vous en parlais tout à l'heure avec Flash. Donc avec HTML5, Google et Microsoft veulent ajouter des DRM. Oh bah dis donc,
pourquoi faire ?
Ça faisait longtemps. Flash possède des mécanismes de chiffrement, donc pour pouvoir chiffrer en fait tout ce qui est vidéo et pour pouvoir avoir la sécurité sur ce qu'elle propose. Mais le HTML5 n'en propose aucun. Donc, Google et Microsoft se chargent, voudraient bien changer un peu le truc. Pourquoi pas une petite proposition de DRM intégrable au HTML5. Et ils ont carrément proposé un petit document au groupe de travail HTML, carrément du W3C.
Ah oui, d'accord.
Et oui, le World Wide Web Consortium.
Voilà.
Attention, donc le
grand Manitou.
Ouais. Ouais, le grand Manitou de l'internet. Ah ouais, c'est très fort. Donc voilà, ni plus ni moins, ils voudraient proposer donc un petit DRM, mais gentil, hein, pas un DRM vraiment, mais un DRM quand même. je peux même pas vous l'expliquer, c'est tellement risible que. Comment vous dire ? Alors d'après ce que j'ai pu lire et d'après les guillemets qui me sont proposés, sélectionner les mécanismes de protection du contenu, contrôler les échanges de licences clés et implémenter des algorithmes personnalisés de gestion de licence. C'est un DRM, non ?
Je crois que ça s'appelle comme ça.
Ça s'appelle comme ça, d'accord, c'est un DRM. Et du côté serveur, différentes API qui fournissent les informations utiles au déchiffrement et au contrôle des droits. Oh, le contenu pourrait être lu par tout navigateur HTML5 à condition d'y être autorisé par l'API. Qu'est-ce que c'est bon tout ça.
Ça m'a l'air pas mal.
Tout simplement, un petit DRM, pourquoi pas, bientôt dans les HTML5, parce qu'apparemment, ça a l'air de leur faire plaisir de nous mettre des bâtons et des verrous numériques partout où est-ce qu'ils peuvent. C'est génial, on adore. Voilà, c'était notre petite news complètement libérée aujourd'hui. Hein.
Ouais,
Mmh. Ah, et alors là, ouais, complètement libéré, effectivement. Non, non, on est dans les temps, t'inquiète pas. Bon, il me refait pas le coup du sucre, s'il te plaît.
Non, j'arrête. Pitié,
parce que dans le micro, c'est absolument horrible. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces animateurs radio qui parlent dans les micros et qui mangent en même temps. Tu vois, moi, j'ai un morceau de gâteau, là. Oui. Moi, je mange pendant que tu parles.
Bah oui.
Mais toi, t'as mangé du sucre.
Mais je m'attendais pas à parler.
Je ferai le coup la prochaine fois. Je te ferai le coup. Et c'est l'heure, on va faire une petite pause musicale.
Musicale.
Ouais, voilà. Une petite pause. Ouais, ça fait déjà 30 minutes qu'on blablate.
Ah oui.
Petite pause musicale et petite dédicace à nos amis de Ch'tinux dans le Nord. Je salue tout particulièrement Tim à la technique. Donc,
t'es viré, Tim.
Ouais, t'es viré, Tim. Ouais, on aime bien lui dire ça. T'es viré, Tim. Alors, Tim à la technique, il fait de la musique et puis qui nous propose un petit truc qui bouge là. Ça s'appelle Sodoro et son nom c'est Tim Oxy dans Flux Libre épisode 7. Musique. Restez. Pas repris ton casque. Tu t'es dit qu'on recommençait, hein. La musique, elle est finie. Hein.
Je suis prêt.
Ah ouais. Il m'a l'air bien dissipé, ce petit gars, aujourd'hui, je trouve. Voilà, c'était Team Oxy, Sodoro, que vous pouvez écouter également sur SoundCloud. Je sais, c'est pas libre, mais bon, on peut pas être libre à tous les niveaux.
Non, mais j'aime bien SoundCloud quand même.
Ouais, c'est plutôt pratique quand on veut écouter certaines sorties de label. Et maintenant, est venue l'heure du focus avec un très très gros morceau. Je laisse le générique se dérouler avant. Alors, avec Linux From Scratch, c'est le focus du jour. Alain, c'est à toi.
C'est parti. Linux LFS, donc, pour Linux From Scratch. En français, ça veut dire Linux à partir de zéro. C'est une distribution GNU Linux, donc un petit peu particulière, puisque, en fait, ce n'est pas un CD, ce n'est pas une clé USB qu'on va utiliser pour installer sa distribution. On va utiliser
quoi, alors
un bouquin. Mince, alors, à l'ère du numérique,
oui, c'est clair,
comment on va faire pour utiliser un bouquin pour installer sa distribution ?
N'importe quoi.
Voilà. Donc LFS, c'est pas vraiment le nom de la distrib, c'est le nom donc,
du
bouquin qui est utilisé pour construire sa distribution. Et donc ce bouquin permet de se construire son système GNU Linux à partir de rien. Donc on part d'une distribution déjà existante ou bien d'un live CD. On se crée une petite partition et puis on commence. En fait, on utilise en suivant les étapes une à une les étapes du bouquin. On va utiliser les outils de compilation qui sont installés sur notre distribution de base.
Tu peux citer un GCC, Make.
Voilà, par exemple, Autoconf et compagnie. Et puis on va se construire avec ces outils de compilation là, on va se construire dans notre partition dédiée son système GNU Linux complètement personnalisé en fait. Donc en fait la première étape, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que la première étape va nous servir, donc on va utiliser les outils de compilation de sa distribution haute, en fait, on va dire. Par exemple, j'ai installé une Arch Linux et puis depuis ma Arch Linux, je vais commencer à compiler ma LFS. Et en fait, les premiers outils que je vais compiler, donc ça va être un kernel, des outils de compilation, Bash par exemple, donc l'interpréteur de commandes. Et une fois que j'aurai un système ultra minimal et qui permet tout juste de booter et puis de faire quelques petites choses, je vais démarrer sur ce système ultra minimal là, et de là je vais recommencer toutes les étapes de compilation avec mes outils déjà compilés avant, avec mes premiers outils compilés, et du coup je vais obtenir un système ultra optimisé pour ma machine, un truc super rapide qui prend pas de place du tout. En général on est en dessous on est aux environs plutôt de 100 mégaoctets à peu près pour sa distribution. Moi, de base, hein, y a rien du tout, hein.
Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que si tu veux faire un CD, il te reste 500 et des poussières.
Oui, mais tu peux descendre encore en dessous après. Parce que, notamment, par exemple, au niveau du kernel, tu peux choisir, au niveau du noyau, tu peux choisir de tout mettre en modulaire pour pouvoir charger les modules,
à la volée,
ouais. les drivers donc à la volée. Mais tu peux diminuer la taille, tu peux drastiquement même, j'ai envie de dire, diminuer la taille de ton kernel. Si tu mets les modules en dur dans le noyau et que tous les modules que tu sais que t'en auras pas besoin sur ta machine, tu les enlèves, t'enlèves tous ces modules-là, ton kernel il va être beaucoup plus rapide à démarrer,
en gros,
les modules ils vont être chargés directement.
Voilà, l'idée c'est comme si on installait je vais prendre un exemple basique, mais une Ubuntu, mais Ubuntu va charger génériquement un tas de drivers,
voilà,
de
noyaux, énormément de choses,
de modules,
ouais.
Avec
un kernel énorme, etc.
Avec un kernel énorme qui contient tout, que là vraiment c'est minimal, vraiment ce que ma machine a besoin, c'est-à-dire il va pas me charger 36 000 modules pour le Wi-Fi, pas 36 000 trucs pour ma carte, telle carte. D'accord.
Exactement, okay. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Ça se fait bien, hein, sur n'importe quelle distribution, on peut s'amuser à faire ça. On prend les sources du kernel, puis on se recompile un petit kernel. Ce qui est embêtant, c'est au niveau des mises à jour, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour du noyau, il faut recompiler son noyau.
Voilà. Justement, j'ai une question. On parle de système de fichiers, en tout cas de notation de fichiers .deb pour Ubuntu, pour, mm-hmm. en tout cas pour tout l'écosystème.
Ah oui, ça c'est au niveau
Debian.
De la gestion des paquets, ouais.
Ouais, voilà. Au niveau de la gestion des paquets, est-ce qu'avec une LFS, tu peux créer ta propre version de gestion des paquets, ou est-ce que tu es obligé de te baser sur quelque chose d'existant, un Yum, un Deb, un...
Non, là, il n'y a pas de gestionnaire de paquets. Si tu veux installer un nouveau logiciel libre, tu vas sur le site de ce logiciel-là, tu télécharges les sources
et tu
les extrais, oui. tu les compiles et tu les installes.
D'accord. Voilà. Un peu comme ce que fait Arch Linux, finalement.
Non, parce qu'Arch Linux, on va chercher sur les dépôts Arch Linux.
Ouais, mais
je dirais plus un petit peu comme fait
quand tu vas sur AUR à l'origine.
Oui.
C'est pour expliquer aux auditeurs, AUR c'est le dépôt unstable d'Arch Linux, hein, c'est Arch Linux Unstable Repository. Ce sont tous les logiciels qui n'ont pas droit
de compiler, qui sont pas packagés,
ou qui n'ont pas forcément droit de citer parce qu'ils sont pas libres de quelque chose ou d'autre sur Arch Linux, même pas cette histoire là d'ailleurs. Voilà, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être sur Arch Linux, tout simplement. Et effectivement, eux sont par contre compilés mais pris directement depuis tarp.gz.
Il y a un package build qui est d'abord téléchargé.
Oui, voilà.
Voilà, et ce package build permet d'aller récupérer les sources et d'avoir directement les options de compilation pour compiler son logiciel.
Voilà, donc ça serait un peu
là avec LFS, c'est un petit peu pareil, sauf qu'il n'y a pas de package build. Donc on va chercher soi-même les sources, et quand on compile, on met soi-même les options de compilation.
Un package build juste pour faire le point sur parce que c'est le fichier en fait qui permet de dire à ce fichier justement qu'on a récupéré et qu'on veut compiler, bah justement j'ai envie de le compiler, donc je télécharge tel logiciel, la source je la télécharge de tel site,
savoir quelles sont les dépendances aussi.
Exactement, savoir où est-ce qu'il va installer, qu'est-ce qu'il faut modifier exactement pour que ça soit plus fin au niveau des réglages, voilà. Donc c'est pour ça que sur AUR on trouve une tonne et une tonne de logiciels,
énormément de choses,
qui ça veut bien dire ce que ça veut dire unstable, soit ça le fait, soit ça le fait pas, ça le fait pas. Voilà. Moi j'ai installé Wayland la semaine dernière, je sais qu'est-ce que ça fait. Là franchement, je retente plus.
L'idée du siècle.
Ouais. Je t'en prie Alain, continue.
Donc pour continuer sur LFS, une fois son premier système installé, on ne dispose d'aucune application tierce, c'est-à-dire qu'on a donc évidemment aucun graphisme, pas de navigateur installé, même pas en mode texte.
Pas un petit Lynx.
Et bah si tu veux installer Lynx,
tu
vas chercher les sources.
Je
me répète.
Malin le Lynx.
Donc il faut tout compiler un par un. Voilà. La version actuelle de LFS, c'est la version 7 qui est sortie en octobre 2011 et qui a très rapidement été traduite en français. Il y a d'ailleurs une personne de chez l'asso Actux de Rennes qui se
motive,
qui est très active
d'accord.
Dans la traduction d'LFS. Et une fois qu'on a terminé de lire son bouquin LFS et qu'on
qui
a terminé,
est quand même extrêmement long, je laisse
ouais,
mon PC.
C'est un gros truc. Ouais. en même temps, il y a toutes les étapes, c'est super bien décrit. Hein,
ah oui, mais c'est trop décrit justement. J'ai commencé
super,
les premières pages. Hein.
C'est super. Et on peut aller plus loin ensuite, puisqu'il y a des sous-projets de LFS. Le premier d'entre eux, c'est BLFS, pour Beyond LFS, et qui permet, en suivant le même principe d'LFS, c'est-à-dire que c'est un bouquin, hein, c'est même la suite du bouquin LFS, et qui va donc permettre de compiler d'autres applis pour pouvoir avoir une utilisation au quotidien de sa machine, pour un PC de bureau par exemple, une borne multimédia, ou même faire un serveur ou un routeur. Donc ça va avec Beyond LFS, on va avoir quelque chose vraiment d'utilisable, on va pouvoir installer son Xorg, son Gnome si on veut, etc. Il y a encore d'autres sous-projets d'LFS. Il y a ALFS pour Automated LFS, qui lui, c'est pour les habitués de LFS, qui ont déjà construit LFS 2, 3, 4 fois, qui en ont peut-être un petit peu marre de tout faire à la main à chaque fois. Et là, c'est scripté, c'est automatisé, donc on balance son script et puis ça va télécharger les paquets, les compiler, etc. Avec les options, on lui donne les options en fait qu'on veut pour la compilation, et puis il s'occupe de tout, et puis comme ça on peut sortir faire la fête avec ses amis, et puis quand on revient, son système est presque prêt. Je dirais pas que c'est terminé, mais ça doit être presque prêt.
Surtout pas à faire sur un Pentium 2.
Non, c'est clair. Et enfin, HLFS pour Hardened LFS, qui est une version sécurisée de Linux from scratch, qui est là plutôt destinée à la création de serveurs, routeurs, pare-feu, switch et compagnie, ultra sécurisée. Et une fois qu'on a installé HLFS, la machine est prête pour entrer en fonctionnement dans un environnement, on peut dire, hostile.
Avec voilà. Plein de Windows autour.
Avec plein de Windows autour, et puis peut-être avec...
Ah, c'était pas con ce que j'ai dit. Non, c'était pas con. Vu ta tête, c'était pas si con que ça, en fait. Non.
Non, c'est pas que ça, c'est aussi... c'est-à-dire que si on veut, à l'entrée de son réseau local, mettre un pare-feu, avec LFS par exemple, eh bien HLFS permettra d'avoir un pare-feu justement sécurisé qui va pouvoir déjouer certaines attaques, des tentatives d'accès frauduleuses sur son réseau. Voilà. Alors moi j'avoue, j'ai pas encore testé LFS, je le ferai un jour, c'est quasiment sûr, hein, puisque ça doit être vraiment super intéressant. Et enfin, pour moi en tout cas, je pense que LFS a surtout un rôle éducatif. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'informatique, si vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, un système d'exploitation, comment ça démarre, qu'est-ce qu'on a besoin comme outil, etc., etc. Si vous avez également un week-end prolongé à perdre...
Pas aller faire la fête chez les amis. Voilà. Bah, aussi quoi que pour attendre la compilation complète deux compiles.
Donc si vous avez envie de savoir tout ça, de voir exactement comment ça fonctionne, moi je vous conseille vivement de tester au moins une fois l'installation de Linux from scratch, puisque à mon avis ça doit permettre d'apprendre beaucoup de choses. Moi je sais que ma toute première distrib c'était une Gentoo. J'ai mis un temps fou à l'installer, j'ai cru que j'y arriverais jamais, j'ai eu kernel panic sur kernel panic à chaque démarrage. Parce que compiler son noyau quand on ne comprend rien à Linux,
c'est pas que des lignes de commandes à
copier-coller. Ah non, parce que là je m'étais fait un noyau, je m'étais pas fait un noyau modulaire, je m'étais fait un noyau
simple quoi, le noyau dur. Générique quoi.
Oui, j'avais pris le noyau générique, mais je l'avais pas mis, j'avais pas mis les modules. Les drivers en mode modulaire, et donc j'avais mis tous mes pilotes en dur. Donc si j'en oubliais un, forcément ça démarrait pas.
Ça plantait
donc j'avais des kernels panique, j'ai mis une semaine ou deux à l'installer. Et ben n'empêche que c'était ma toute première distribution Linux. Voilà. Et ben n'empêche que j'ai rapidement appris à comprendre comment fonctionnait une distribution Linux et comment ça démarrait et de quels outils on avait besoin pour la faire fonctionner et où c'était les fichiers de configuration et comment ça s'édite et blablabla. Voilà, c'est quand même super pratique pour ça. Et je pense que LFS a un gros rôle éducatif aussi à ce niveau-là.
Je dirais que de toute manière, quand on commence à approcher des distributions, on vous parle souvent d'Arch Linux et pour cause. Tu as parlé de Gentoo, on pourrait citer
Debian,
sans aller beaucoup plus loin. Voilà, ce sont des systèmes qui, effectivement, même elles ont un côté plus user-friendly aujourd'hui, je pense notamment à Debian.
Ouais,
même
un petit peu, ouais.
Si effectivement, faut quand même y mettre les
mains.
Mettre
la patte, ouais.
Voilà, déjà, approcher ce genre de système permet de toute manière de comprendre d'un peu plus près qu'est-ce que vous gérez dans votre machine.
Voilà.
Disons qu'on est vraiment au plus près de la machine. On regarde juste, sans aller plus loin, Arch. Quand on va modifier une option dans rc.conf, on sait que ça aura une incidence, notamment quand on veut démarrer un démon. Ça aura une incidence sur le démarrage, même sur une Debian d'ailleurs.
Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on le voit au premier boot de la machine. Que notre, donc là, pour parler des services, enfin des démons, au premier boot de la machine, on voit, ah bah tiens, j'ai ce service-là que j'ai rajouté dans rc.conf.
C'est un débat, Alain. C'est un débat aussi.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir et qui veulent, d'où l'option Quiet Splash à la fin d'un kernel, à la fin de comment ça s'appelle, d'une ligne de kernel. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui vont vouloir ne voir que Ubuntu ou je sais pas moi, ou Debian ou Arch Linux, et puis voilà.
On peut pas tous être fans.
C'est vrai que nous on aime ça voir ça démarre, oh ça démarre pas, mais bon c'est vrai que ça c'est un débat et c'est, je pense, au feeling de chacun comment on sent tout ça, mais on devrait créer une LFS en flux libre.
Oui, on peut s'amuser à faire
ça. Par contre, quand
dans quelques années,
je pense, parce que là, il faudrait déjà qu'on termine tous nos projets en cours, ça serait pas mal. voilà ce que tu pouvais dire sur LFS.
Voilà, sur LFS.
Donc, c'était très 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 bien. J'ai le livre, faudrait que je le lise. Mais
bah, je vous mettrai le lien de toute façon. L'équipe française de traduction est très très active.
Et LFS 7 est déjà traduite.
LFS 7, alors LFS 7 est sorti en octobre et en octobre c'était traduit. Mais comme l'écriture de LFS se fait également en public, du coup la traduction peut se faire au fur et à mesure, de l'écriture du bouquin et pas ça y est, LFS 7 est sorti, on attaque la traduction. C'est traduit au fur et à mesure.
Et je veux quand même préciser une chose, ça peut vous paraître quelque chose de geek, hein. C'est parce que
c'est totalement geek.
Mais bon, les deux personnes qui vous parlent dans le micro toutes les deux semaines, tous les dimanches, on a une vie ailleurs, ne vous inquiétez pas.
On ne fait pas que ça de notre vie.
C'est un peu le message que j'aimerais faire passer, parce que bon, j'entends un peu trop souvent qu'on fait que ça de notre vie et qu'on ne fait que des choses devant notre écran. Ben, écoutez, je pense avoir apporté suffisamment de preuves sur ma vie privée sur le site internet pour savoir qu'effectivement, on fait autre chose de notre vie. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc voilà pour LFS, Linux from scratch. Il existe aussi, et je terminerai dessus, des outils pour créer, ou en tout cas pour personnaliser sa propre distribution. Il y a SUSE Studio, je crois OpenSUSE Studio, qui existe dans la même, un peu dans la même veine, mais là on reste vraiment sur environnement OpenSUSE. Et il y a également Ubuntu qui fait exactement la même chose, où effectivement on peut personnaliser, mettre tel logiciel, mais là on est plus sur un aspect interface user friendly, donc c'est vraiment un truc fleuri, bien joli, bien polissé.
Et...
on est les durs du terminal.
Et ce que ça me fait penser justement, cette histoire de personnalisation, je rebondis là-dessus, c'est Darswound qui a créé.
Oui, je voulais le citer d'ailleurs,
tu fais bien. Qui est parti d'une Fedora et il a viré l'environnement de bureau par défaut de sa Fedora pour mettre OpenBox et puis configurer un petit peu tout ça à sa sauce derrière, avec un joli thème, avec, avec plein de choses sympathiques, et il a créé sa propre distribution à partir de ça qui s'appelle Viper. VIPE2R.
Truc méchant.
Très joli logo d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que c'est
beau.
Ouais, c'est vrai.
Moi j'aime beaucoup.
J'y suis en ce moment.
Voilà. Donc Frédéric Béziès a testé la distrib. Il y a un article sur son blog. Apparemment, ça envoie du pâté. Donc,
apparemment, moi j'ai lu également l'interview qui a été faite de lui.
Il a
fait une interview et d'ailleurs il m'en a même remercié sur Google+. C'est un mec qui est humble.
Ah oui, très sympa.
Et dans le libre, ça manque. Je sais, je vais pas me faire encore des copains, mais ça manque parfois. Allez, c'est parti.
Allez, on enchaîne.
Ouais, on enchaîne.
La dégeek.
Ouais, la dégeekalisation sur
le
modèle OSI. Mais qu'est-ce que c'est ? Allez, générique. La dégeekalisation aujourd'hui s'occupe de vous dégeekaliser OSI. Alors ça va pas vous parler, c'est ce que je vous disais depuis le départ, ça ne me parlait pas il y a pas plus tard que quelques mois.
C'est vrai que j'ai appris ça assez tard moi aussi.
Ouais, donc voilà, mais c'est toujours bon quand même à savoir. Donc on continue notre série réseau, comme depuis il y a 2 semaines où on vous avait fait un petit point DNS, pour vous faire en fait, pour vous proposer un petit récapitulatif sur le modèle de référence qui gestionne l'ensemble des communications qui passent par Internet, donc OSI pour Open System Interconnection. Je ne me risquerai pas une traduction en française.
Système d'interconnexion ouvert.
Merci. Voilà, j'ai même pas demandé. Alors, le modèle OSI est un modèle de communication qui décrit de manière exacte les fonctionnalités nécessaires à la communication et à l'organisation du réseau mondial que tout le monde connaît sous le nom d'Internet. Il est à l'origine du réseau ARPANET, qui est en fait le premier squelette du réseau mondial qui était utilisé à l'époque par l'armée, de mémoire. Ancêtre donc du grand Internet que l'on connaît aujourd'hui.
Pardon, excusez-moi. J'avais les travers.
Ah, ça arrive vraiment en direct.
Mange un morceau de sucre.
Ça ira. Non, surtout pas. Là, je pense qu'on peut finir l'émission. Alors voilà. Alors, je ne suis pas mort. Donc, OSI est constitué en couches selon un modèle protocolaire, donc strict, qui contient deux grands ensembles de couches. Les couches basses pour le transport pur des données et les couches hautes pour les applications chargées de traiter et de recevoir les données des couches basses. Les couches basses sont au nombre de 4, physique, liaison, réseau et transport, et les couches hautes sont au nombre de 3, session, présentation et application. Au niveau des couches basses, on parlera de bits, trames et paquets, tandis que sur les couches hautes, on parlera plus de segments, mais encore plus de données. Alors, en détail, qu'est-ce que ça donne, chaque couche, qu'est-ce qu'elles font ? Je remercie d'ailleurs Alain pour son magnifique document qui m'a aidé à réaliser un peu cette dégeekalisation pour vous expliquer un peu plus concrètement qu'est-ce que c'est.
Un petit article que j'avais écrit en août 2009.
Donc la couche physique, la toute première, celle que j'ai citée, qui est la plus basse du modèle OSI, elle s'occupe de la transmission des bits de façon brute sur un canal de communication. Plus clairement, elle est typiquement représentée par la carte réseau et sa prise Ethernet. La couche physique discute directement avec l'hôte suivant sur le réseau, c'est-à-dire que lors d'une communication sur Internet, cette couche ne s'occupe de l'envoi des données que vers la machine suivante, en général, un routeur, une box, trivialement.
Une box, maintenant.
Parce que voilà, une box.
Ou parfois sur un LAN, ça peut être directement à la machine. Un switch, oui. Voilà. Un switch.
Donc voilà, la couche physique, comme son nom l'indique, ça va n'être on va parler de propriétés électriques, de logique de la connexion, de voilà. On va, c'est vraiment le plus bas niveau. On va vraiment, c'est vraiment bon, pas quelque chose de palpable.
Oui, juste des signaux électriques.
Oui, c'est des signaux électriques, c'est tout. Au-dessus, donc en numéro 2, on a la couche de liaison ou liaison de données, qui est un lien entre les deux couches physiques des hôtes en communication. Elle fractionne les données en trames, comme j'expliquais tout à l'heure, et tente d'exempter la couche physique des erreurs de transmission. Donc pendant que votre donnée est envoyée, pendant que la transmission est envoyée, parfois il peut y avoir des erreurs pendant cette transmission, ben justement elle peut passer au-dessus.
Par exemple, quand on est en Ethernet et qu'on n'est pas en full duplex.
Par exemple, quand on est en half, ça
voilà,
peut...
Voilà, en half duplex, c'est-à-dire que... alors, full duplex, ça veut dire que les flux peuvent... donc, admettons, on a juste deux machines, deux PC branchés, avec un câble Ethernet et un protocole Ethernet full duplex. Donc, la machine 1 peut envoyer des données à la machine 2 et la machine 2 peut envoyer des données à la machine 1 en même temps. Tandis qu'en half duplex, il y a des tentatives de communication. Donc, la machine 1 tente d'envoyer des données à la machine 2. Si les données arrivent à bien passer, eh ben, on continue de discuter. Si ça ne passe pas, ça veut dire que la machine 2 essayait en même temps de communiquer avec la machine 1 et que les paquets se sont rencontrés.
Oui, se sont collisionnés en fait.
Il y a une collision de paquets sur dans le câble Ethernet en fait. Et à ce moment-là, la couche liaison va pouvoir tenter de réémettre les trames.
Voilà. Et donc elle doit être capable de renvoyer cette trame s'il y a un problème sur la ligne. Et elle intègre également un système de gestion de flux pour éviter les engorgements. Par exemple, une carte 100 mégabits par seconde reliée à une carte 1 gigabit par seconde doivent pouvoir communiquer sans que la carte 100 mégabits par seconde renvoie 10 fois trop de données. C'est le fameux principe de qui peut le plus, peut le moins.
Voilà.
L'unité d'information, ça veut dire que le 1 giga va se régler automatiquement sur le 100. Tout
voilà,
simplement.
C'est ça.
L'unité d'information de cette couche est donc la trame qui est composée de quelques centaines d'octets. Je rappelle juste qu'un octet, c'est 8 bits. Troisième couche, c'est la couche réseau. C'est celle qui est peut-être la plus connue à mon sens. Parce que là, ça va être plus les adresses IP, les adresses MAC. Donc la couche réseau construit la liaison de bout en bout lors de la communication de deux autres. C'est la seule couche directement concernée par la topologie du réseau. Elle va trouver la route parmi les routeurs pour atteindre l'autre cible. Lorsqu'il y a un envoi de données, deux paquets différents peuvent emprunter des routes différentes suivant l'architecture du réseau et ses points d'engorgement. C'est la dernière couche supportée par toutes les machines du réseau, hôte, switch, routeur, serveur et son unité d'information et le paquet. Je parlais d'adresse IP, donc les adresses IP, tout le monde les connaît, 192, 168, 172, voilà. Et les adresses MAC, qui sont un peu, on va dire, les identifications, les identifiants de la carte réseau.
Physique. Ouais.
Voilà, physique. C'est-à-dire qu'une carte réseau est identifiée par une adresse MAC, par ces six séries de chiffres hexadécimaux.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça.
Voilà, c'est ça. Six séries de chiffres hexadécimaux. Donc hexadécimal, c'est de 0 jusqu'à 9. Et après 9, c'est de A jusqu'à F. Donc, suivant en fait le donc 16 numéros, hein, finalement, voilà. 2, 3, 4, 5, de 0 jusqu'à 16. Mais sauf qu'à partir de 9, ça devient ABC. Donc, les trois premiers sont l'identification du fabricant et les trois derniers sont l'identification de la carte. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une carte Ethernet qui a d'autres qui a exactement le même numéro dans le monde. En théorie. Et l'IPv6 maintenant c'est de l'hexadécimal également, de l'hexadécimal pardon,
oui, aussi,
également,
ouais.
Puisqu'on identifie
les adresses IP vont être beaucoup plus difficiles à retenir.
Voilà. Et puis surtout il y a quand même une capacité d'adresse IPv6 nettement plus grande. Je sais plus par mètre carré de surface combien
énorme,
ça peut représenter,
c'est
mais c'est complètement énorme.
Alors ce que je pensais à ça récemment, c'est que quand on a créé les adresses IP IPv4,
donc les fameux 192, 168,
voilà. On s'est dit, oh là là, avec toutes les possibilités qu'on a, on aura toujours assez d'adresses IP pour tout le monde.
Sauf que non.
Sauf que voilà, on se rend compte que là, il y en a quasiment plus et qu'il est plus que temps de passer à autre chose, et notamment à IPv6.
Surtout qu'il y en a qui ne sont même pas utilisés. Parce que derrière le 192, tu as la classe D de 224 jusqu'à 250.
Voilà, qui sont utilisés pour le multicast, en fait.
Oui,
diffusion, enfin, les adresses de diffusion. Mais là où je voulais en venir, c'est que... au niveau de l'IPv6, là on se dit c'est génial, il y a des milliards et des milliards de possibilités d'adresses IP, on en aura toujours assez, il y aura plus jamais de manque d'adresses IP, mais ce que je me dis c'est que on ne sait pas de quoi les lendemains seront faits et il est très bien possible qu'un jour on se rende compte que des adresses IPv6 on n'en a presque plus et puis qu'il faudra qu'on passe à autre chose.
Enfin, tu me diras, après un codage en hexadécimal.
Écoute, c'est ce qu'on s'est dit quand on a fait l'IPv4.
C'est quand même des sacrés codages déjà.
C'est ce qu'on s'est dit quand on a fait l'IPv4, c'est qu'on aurait toujours assez.
C'est des blocs, voilà. C'est des blocs d'adresses. Hein,
non,
je veux
c'est
dire,
énorme,
c'est pas...
mais je veux dire, tout,
c'est pas rien, hein.
Tout va devenir connecté. Tout, et de plus en plus de choses.
Ah oui.
Donc, à partir de là, moi, je vous parle de ça, je sais pas, dans 50 ans, dans 70 ans, est-ce qu'on aura toujours assez d'adresses IPv6
Moi, je pense
une
que
adresse
ça, oui.
IP publique pour tout le monde, parce qu'avec IPv6, c'est adresse IP publique pour tout le monde. Hein.
Parce que l'IPv4, ça a été créé, je pense, à un moment où effectivement les gens ne possédaient pas forcément des ordinateurs,
c'était les débuts
de l'internet, les gens ne possédaient pas tous un ordinateur chez soi. Maintenant, le moindre petit smartphone vendu 190 euros dans le commerce comme ça est capable de se connecter au Wi-Fi, comment dire, de la box de votre FAI que vous avez choisi, ça multiplie forcément
là,
les
ça
possibilités.
Va, parce que quand il se connecte au Wi-Fi, il utilise une adresse IP privée sur un réseau local.
Oui.
Donc,
oui, voilà, ça,
donc ça va encore.
Ça va encore.
C'est quand il est connecté en 3G.
En 3G,
Là, il a une adresse.
Oui, voilà, faut pas oublier.
C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il a pas vraiment une adresse publique. Il a une adresse plus ou moins privée qui appartient à l'opérateur. Et puis derrière, il y a du NAT, etc. On va pas rentrer dans les détails maintenant parce que c'est extrêmement compliqué.
Et puis il est suffisamment tard pour ne pas s'en occuper.
Voilà, et puis c'est pas le sujet. De la dégeek du jour.
Voilà, alors la quatrième couche, c'est la couche transport. C'est la couche qui est responsable du bon acheminement des messages complets vers le destinateur. Son rôle principal est de prendre les messages de la couche session, donc la couche qui est juste au-dessus, la cinquième, de les découper s'il le faut en unités plus petites et de les passer à la couche réseau et inversement du côté du récepteur. Donc, comme je l'ai dit avec la couche réseau, deux paquets d'un même message peuvent prendre des routes différentes et donc arriver dans le désordre. Le rôle de la couche transport est donc de remettre ces paquets dans l'ordre. Elle peut aussi gérer le multiplexage lors de communications multiples entre deux mêmes hôtes. Et son unité d'information est le message.
Voilà.
J'avais mis segment. Segment, c'est peut-être ça.
Le message. Mais du coup, quand on parle de multiplexage, donc ça permet, par exemple, si j'utilise une machine qui se connecte en HTTP sur un serveur et qui se connecte également en FTP sur le même serveur pour faire du transfert de fichiers, et ben cette couche transport-là, elle va permettre de trier les messages afin qu'ils arrivent derrière, qu'ils puissent être envoyés vers la bonne couche ensuite quand on enchaîne vers la bonne application.
Voilà. Donc la cinquième couche, c'est la couche session. Elle sert en fait à la synchronisation des communications. Donc qui veut parler, qui parle, et elle permet aussi de prendre des snapshots, c'est-à-dire des instantanés, des flots de données pour pouvoir reprendre le dialogue là où il en était avant une coupure du canal de communication, ce qui peut arriver bien entendu.
Exactement.
La sixième couche, c'est la couche présentation. Donc la couche présentation est chargée du codage des données de la couche application, donc la septième, celle qui est juste au-dessus, la dernière d'ailleurs. En effet, toutes les couches les plus basses transportent des octets sans chercher à comprendre leur signification. Ici, elle va s'occuper d'encoder du texte, des images, de la vidéo, de la voix, etc. en données transportables, c'est-à-dire en octets. Donc quelque chose qui puisse être lu et qui puisse être compris finalement par la machine. Puis
voilà,
par nous,
c'est ça.
Finalement. Et enfin, la septième couche, c'est la couche application. Cette couche est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. Elle lui apporte l'interface lui permettant de communiquer avec celui-ci. Donc, c'est votre messagerie, c'est votre navigateur web, c'est votre client de FTP. Voilà. Disons que voilà.
Là, on parle bien donc au niveau de la couche application. Donc moi par exemple pour aller sur internet j'utilise Firefox, la couche application c'est pas Firefox, la couche application c'est le protocole HTTP.
Oui.
Voilà.
Je me suis dit précision. Petite précision. Donc on parle quand même donc de protocole quand on parle de couche, puisque effectivement il faut bien définir certaines choses pour que ça puisse communiquer ensemble. Donc par exemple pour la première, je vous ai parlé de la première couche physique, là on parle plus de données électriques. Pour la deuxième couche de liaison, on va parler par exemple de l'Ethernet. Voilà. Pour la troisième de réseau,
Token Ring aussi qui était ancienne, qui était utilisée avant l'Ethernet.
Oui,
j'aime bien rappeler ce petit.
Oui. Le troisième, donc couche réseau, l'IP, sans aller plus loin. Quatrième, transport, TCP.
Et UDP.
UDP. Cinquième, pour la session, SIP. Pour la VOIP, donc la téléphonie par Internet. Sixième, présentation, code ASCII, ASC2I, Unicode. Oui, ASCII, pardon. Unicode, voilà. Et septième, l'application HTTP, SMTP, POP, FTP, DNS, Italimap, voilà.
Voilà.
Donc, voilà. Bon, je vous rassure, ça se fait de manière super transparente.
Heureusement.
On ne verra jamais comment on se décomposera. Même ça peut même vous paraître complètement abstrait. C'est vrai que ce sont des choses peut-être un peu compliquées à se mettre en tête, que tel truc fait, voilà. Et bon, faut savoir que c'est reverse, c'est-à-dire que moi je pars de la couche physique, comme je pars également de la couche application, c'est-à-dire hop, c'est du reverse à chaque fois entre chaque machine. Que... Et ça, des millions et des milliards et des milliards de fois par seconde.
Oui, c'est ça.
Par voilà, c'est complètement transparent, ça ne.
Et donc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque couche, au niveau réseau, chaque couche communique directement avec la même couche de la machine qui se trouve en face. Je ne sais pas si je suis bien clair. Ce que je veux dire par là, c'est que la couche application communique directement avec la couche application de la machine qui se trouve en face. Elle ne communique pas vraiment avec la couche présentation. Pareil pour la couche physique qui communique directement avec la couche physique de la machine qui se trouve en face. Et ensuite, ce sont juste les données qui, le flux de données, une fois arrivé dans la couche physique, qui remonte comme ça jusqu'à la couche application. Et donc voilà, le flux est très simple. J'ai mes données dans la couche application qui vont descendre dans la couche présentation, session, transport, réseau, liaison physique. Là, au niveau physique, donc elles sont arrivées juste sous forme de bits, de signaux électriques, donc à savoir plus 5 volts pour un 1 au niveau bit et moins 5 volts pour un 0. Et donc tout ça s'est envoyé dans mon câble Ethernet vers la couche physique de la machine qui se trouve en face et ça va remonter boum, boum, jusqu'à la couche application.
Voilà. Mais comme on vous dit, ça se fait de manière... transparente. C'est pas quelque chose.
Donc moi, ce que j'avais appris en formation, c'est le modèle OSI est extrêmement utile pour faire du dépannage.
Oui.
C'est-à-dire qu'on commence toujours par la couche numéro 1, c'est-à-dire
la couche physique.
Vous avez un problème, mon réseau ne fonctionne pas, j'ai un problème. La première chose que je fais, c'est que je regarde si mon câble il est branché et si ma carte Ethernet est allumée.
C'est toujours mieux.
Exactement. Et comme ça.
Ça paraît con comme ça,
mais c'est vrai. Parce que souvent, ça m'arrive. Je ne respecte pas ce modèle, je l'avoue. Quand je cherche un problème sur ma machine ou sur une machine au boulot, j'applique pas forcément le modèle OSI. Quand je me rends compte que c'était mon câble qui était mal branché, tout de suite je me dis bah tiens le modèle OSI, mon compte aurait peut-être dû y penser sur ce coup-là quoi.
T'es bien con. C'est toi qui l'as dit. Hein. Même si voilà. Donc voilà, c'était notre dégeek OSI et on referme cette parenthèse réseau pour partir sur du kernel dans deux semaines,
ouais,
hein,
dans
c'est
deux
ça
semaines, ouais.
Dans deux semaines du kernel, ouais. Démarrage, qu'est-ce que le kernel démarre,
voilà.
C'est ça
ouais. Qu'est-ce que démarrage le kernel, du kernel, ouais.
Qu'est-ce que le kernel démarre, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Linux from scratch, donc
oui.
Voilà, c'est parfait, ça va parfaitement dans le sens de notre émission, qu'est-ce qu'on est fort. Et on attaque la dernière partie de cette émission avec la sélection en flux libre. La sélection en flux libre avec pas grand chose hein, cette semaine. Trois petites choses. Frugalware 1.6, Chakra 2012.02 et Ubuntu Android. Voilà, c'est juste histoire de. C'est histoire de finir l'émission. Donc Frugalware sort en version 1.6.
Aka Fermus.
Ouais, et du nom. Alors, tous les noms sont tirés en fait chez Frugalware. Tous les noms sont tirés de. Comment dire de la saga. Voilà, saga. Je dirais de l'énorme bouquin de Isaac Asimov, Fondation. Tout est sorti de Fondation. D'ailleurs, la prochaine 1.7 s'appellera Gaïa.
Ah!
Voilà. Petite info en exclu.
Fondation que je conseille à tous nos auditeurs
si
vous n'avez pas lu. C'est
si vous êtes
très,
fan
très
de science-fiction
série, ouais,
et
génial.
Très bonne série, je regarde ma bibliothèque de côté, je les admire mes livres.
Ah ouais. Non, c'est vrai que
je
les ai
tous en intégralité.
Je suis d'ailleurs
ouais.
En train de les relire là.
Je crois que je vais me mettre à les relire aussi parce que c'est. Vous écoutez de la musique un peu, comment vous dire, je sais pas, du dubstep ou de la drum ou un peu de techno ou un truc noir, machin, enfin un truc ambiant et tout de suite ça vous transporte. Enfin voilà. Non, on n'est pas dans une émission littéraire, nous sommes dans une émission informatique libre, bien entendu. Frugalware 1.6, une distribution que j'aime bien, moi. Elle me paraît sympathique parce qu'il y a beaucoup de Français.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de Français qui développent. Elle me paraît très sympathique. Je te laisse en parler. Plus
simplement. Oui, alors donc voilà la version 1.6 qui est sortie très récemment. Il y a deux semaines en fait quasiment, ouais. Puisque c'était le lendemain de la dernière émission, de l'enregistrement de la dernière émission. C'était lundi 13 février. Donc, dans cette nouvelle mouture de Frugalware, nous avons un kernel 3.1, Gnome 3.2, KDE 4.7, LibreOffice 3.4, Firefox 10 pour les composants majeurs, et puis aussi et surtout, je dirais, les ISO sont maintenant hybrides. Donc, alors qu'est-ce que c'est une ISO hybride ? C'est une ISO qu'on peut graver sur CD, et c'est également une ISO qu'on peut utiliser pour la mettre sur une clé USB avec la commande DD. Un D et un D, hein, pas DE, DE. Donc c'est quand même vachement pratique d'avoir une seule ISO à télécharger, que ce soit pour la graver sur un CD ou pour la mettre sur une clé USB. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont supprimé le support de EFI et UEFI sur la version i686. Puisque,
que la version 32 bits. Hein,
voilà, la version 32 bits, puisque bah, les processeurs, en général, sur les machines ayant des processeurs 32 bits, l'EFI ou l'UEFI est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant. Donc, bah, du coup, ils ont décidé de l'enlever. Ils ont également supprimé HAL.
Justement, attends, je reprends sur UEFI et EFI. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Tu peux, pardon, oui.
Tu peux expliquer juste pourquoi c'est rare, justement.
Les nouveaux BIOS, machin ultra rapide, qui font plein de choses super intelligents.
Qu'on avait parlé dans l'émission,
dans les toutes premières émissions. Voilà, Windows, Windows sur les trucs de ouf dessus. Là.
Voilà, on reviendra pas là-dessus.
Exactement.
HAL, tu disais.
Donc HAL, Hardware Abstraction Layer.
Ça fait longtemps qu'il a été enlevé ailleurs. Hein.
Ah oui, ah, oui c'est
HAL,
vrai.
HAL, il est déprécié partout.
C'est vrai.
Je veux dire que
vrai.
Même donc, il n'existe plus. Hein.
Alors j'ai appris récemment donc déprécié, ça n'existe pas en français et qu'on dit obsolète.
Eh ben, si je dis déprécieux, je suis français quand même.
Moi, c'est ce que j'ai dit aussi sur le coup, mais du coup, je lisais déprécated, là, je cherchais la traduction et c'est obsolète. Enfin, bref, donc HAL est maintenant obsolète et a été remplacé par UDISC, comme c'est le cas depuis au moins, je ne sais pas combien de temps, mais très très longtemps.
Ouais, un certain nombre de Linux, ouais, de deux mois.
InitRD maintenant pour le démarrage. Cinnamon est inclus également sur les ISO.
J'ai testé Cinnamon.
Ouais.
Ouais, ouais. Alors... avant de casser complètement ma machine avec Arch Linux et Wayland, j'ai fait un dernier baroud d'honneur et j'ai testé Cinnamon. Bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout.
Ouais.
Ouais, non, c'est pas mauvais du tout.
Ça doit être pas mal même.
Ouais, ouais, ouais. C'est assez convivial. J'aime bien. Moi, c'est un menu noir qui apparaît où tout est bien rangé, bien classé. Ça fait un bureau minimaliste. Je suis pas allé voir plus loin parce que j'avais installé une Ubuntu 11.10 avec forcément Unity et que j'ai viré au profit de Cinnamon et non c'est pas mauvais du tout hein, et puis il y a des thèmes qui existent en plus donc voilà quoi, je dirais que c'est une alternative. C'est une alternative.
Très bien.
Donc inclus maintenant dans Frugalware. Et enfin, dernière chose, Frugalware Live est enfin usable. J'allais dire usable, ouais, tu vois, je lis mon écran, mais utilisable. C'est enfin utilisable et enfin n'a plus de bug. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Frugalware. On passe à Chakra Project. Alors, Chakra vient. C'est un fork de. Pas fork. Disons que c'est Arch Linux.
C'est un Arch Linux user friendly.
Ouais. Là, c'est un Arch Linux user friendly. Donc, qui, je crois, de mémoire, n'est même pas. comment dire, n'est pas compatible avec Arch.
Non, ils utilisent d'autres, repos.
Enfin, ceci dit, dans cette nouvelle mouture 2012.02, on a droit à du KDE 4.8, à du Linux, le noyau Linux est en 3.2.2. Donc, cause du tout dernier, à quelque chose près, voilà. Donc, c'est très beau,
c'est joli, ça utilise donc KDE par défaut.
Ouais, ouais, voilà, ça utilise KDE, c'est très joli, c'est, voilà, c'est, moi je dis pourquoi pas, tester. J'avais testé la 2011 point, je sais plus combien, et j'avais trouvé ça assez sympa, pas assez mature, je trouve, à mon sens, au niveau du gestionnaire de package qui utilise en fait Pacman,
oui,
donc la même chose qu'Arch Linux.
Après, ça se fait en ligne de commande, mais
Oui,
on installe une distrib user friendly, on aime
oui,
bien
voilà,
une
dans ces cas-là, je vois pas pourquoi on utiliserait Pacman encore. Dans ces cas-là, on s'installe une Arch et puis terminé quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis enfin, Ubuntu qui arriverait sur Android.
Oui.
Qu'est-ce qui vient encore nous sortir, Monsieur Shuttleworth,
Donc, et ben là, c'est pas quand on dit Ubuntu arrive sur Android, c'est vrai qu'on peut trouver ça étrange puisque Ubuntu est un système d'exploitation et Android est un système d'exploitation aussi. Donc, comment Ubuntu pourrait arriver sur Android? Et bien, en fait, ça serait une application qu'on installe sur son Android. Donc, il faut quelque chose d'assez récent avec un dual core 1 GHz au moins. Et puis pas mal d'espace libre sur, enfin en tout cas avoir pas mal de place sur son disque, sur son smartphone quoi. Il faut également avoir une prise HDMI pour pouvoir brancher le tout. Et puis on peut grâce à cette application utiliser son téléphone comme personal computer. Donc voilà, on le branche sur son petit socle avec la prise HDMI qui est reliée à l'écran. On lance l'application Ubuntu et on a Ubuntu, tout simplement.
Comme si on pourrait carrément avoir Ubuntu TV, comme si ça pourrait faire peut-être un doublon avec Ubuntu TV finalement, parce qu'ils veulent aussi faire une télévision avec système d'exploitation Ubuntu.
Oui, donc là c'est système d'exploitation, là c'est une application
d'accord.
qu'on installe en plus sur son Android. C'est-à-dire
d'accord.
que quand dès que c'est débranché, on utilise son téléphone avec Android normalement, et quand on a besoin d'un PC d'appoint ou même si on a un téléphone ultra récent, super puissant, on peut l'utiliser comme PC tout court.
D'accord. Donc, et ça sortirait quand ça
Je sais pas quand est-ce que ça sort. C'est sorti.
C'est sorti. Donc on peut l'utiliser.
Alors j'ai un ami qui débarque chez moi cette semaine avec un.
Salut à toi Mathieu.
Avec un Galaxy Nexus.
Enfoiré.
Donc je vais voir s'il y a moyen de tester ça sur avec son téléphone. Il va m'en vouloir si je le lui casse, mais c'est pas grave, il
d'accord.
achètera.
D'accord. Parce qu'il faut quand même, d'après ce que j'ai lu, il faut quand même des bonnes perfs. Hein. Faut quand même un bon téléphone. Hein.
Ouais.
Même mon
oui.
S, je pense.
Ah bah oui. Moi,
ah si, si.
Bah,
moi...
façon, moi,
ah bah non, pas, bah non, j'ai pas de sortie HDMI.
Voilà, quoi. Moi j'ai pas de sortie HDMI.
Bon,
je sais pas si le Galaxy Nexus en a un.
Si je crois. Ouais.
On a une, mais s'il y en a une, je pense que j'essaierai de faire un petit test chez moi cette semaine, si j'ai le temps.
Donc voilà, Ubuntu, mais quelque part Ubuntu qui utilise des choses complètement, des protocoles complètement ouverts, hein, HDMI,
téléphone
Android, je dirais que voilà, ils ont fait...
Je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Non,
ce
c'est pas une mauvaise idée.
Disons que plutôt innovant.
On commence à voir qu'Ubuntu, part sur d'autres directions,
un autre
navire. Voilà, au lieu
Linux,
de rester un peu dans notre communauté.
Linux, ça
fermée.
Ne fonctionne pas sur le bureau.
Oui.
Éternel
troll.
Ça, c'est clair, hein, éternel troll, c'est sûr. Quand je dis ça ne fonctionne pas, c'est ça ne fonctionne pas commercialement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas énormément utilisé.
Comment ça, on commence quand même à voir, à poindre des choses, des partenariats, parce que j'entendais la semaine dernière OpenSUSE qui en tout cas la société SUSE, pas OpenSUSE, qui annonçait des partenariats d'intégration avec Dell, donc des partenariats OEM, les mêmes choses, les mêmes partenariats.
Il y a eu avec Ubuntu aussi des partenariats Dell, Ubuntu, et en général ça va pas très loin.
Mais attention, là c'est pour l'entreprise.
Oui, d'accord.
Donc
ouais.
Serveur et desktop. Donc pour.
Mais enfin, je veux dire, on n'atteindra jamais les 20% de part de marché sur le PC de bureau.
Non.
Donc par contre, les systèmes Unix, en tout cas sur les smartphones et sans doute sur les téléconnectés, vont pouvoir avoir des grosses, très grosses parts de marché, voire même avoir la plus grosse part du gâteau.
Mais moi, je pense que c'est dû essentiellement parce que. Bon, moi je veux bien qu'on parle de oui, mais Linux n'atteindra jamais tel pourcentage de marché. Ok, moi je veux bien. Sauf qu'il faut pas oublier une chose, c'est que la majorité des distributions Linux sont développées exclusivement, quasi exclusivement, par des gens qui sont bénévoles, des développeurs
qui sont bénévoles,
à part des distributions qui sont accolées à des sociétés sans mauvais préjugés sur ces sociétés-là, que ce soit Canon École ou Red Hat par exemple. Ce sont la majorité, on parle de Arch Linux, on parle de Debian, on parle de Frugalware par exemple, ce sont quand même des distributions qui n'ont pas d'argent.
Ah oui, non,
en général, c'est l'argent des contributeurs. Pour enregistrer ce podcast, j'utilise Tango Studio, c'est l'énergie, la force même d'un seul homme. Donc, effectivement, si après on met la puissance commerciale, si derrière on met billets sur table, si on met à tiens, toi, tu seras à 1500 euros ou à 2000 euros par mois, et puis tu vas me coder ça, et tout au long de la journée, ou une équipe, tu me fais le meilleur système d'exploitation, Linux explose Windows. Par sa diversité, par la forme que tu peux lui faire prendre, par regarde le nombre de gestionnaires de paquets que tu as sur Linux, Linux, tu en as une infinité. Pardon. Donc moi, pour moi, je suis désolé, c'est un faux débat que de dire « Ah oui, mais ça va jamais atteindre. » Mais non, forcément que ça ne va jamais atteindre. C'est développé par une communauté, pour une communauté.
Et oui,
on fait découvrir au public.
Juste un
voilà.
constat.
C'est...
Juste
ah
un
oui,
constat.
Bien sûr, mais c'est pas toi que j'engueule. Moi, je pousse un peu un cri parce que c'est chiant toujours. « Oui, mais Linux, ça atteindra jamais ceci, jamais cela. » Forcément. On est entre guillemets, et c'est peut-être aussi là qui est dommageable, on est entre nous, on a maintes et maintes fois salué la qualité du noyau de Linus Torvald, donc qui est devenu aujourd'hui Linux. On a maintes et maintes fois salué le fait que dans les serveurs c'est ultra fiable, que effectivement il y avait plus de sécurité et patati et patata, et qu'il y avait aussi une certaine ordre éthique derrière, même si effectivement Linus Torvald a toujours plus ou moi du mal à le faire à l'accepter lui-même. Donc voilà, moi je dirais que c'est normal, c'est une communauté pour sa communauté et c'est pas une communauté pour
bien
le
sûr,
reste du monde, parce que si c'est pour le reste du monde, dans ces cas-là une grosse société s'y intéresse.
Je dirais pas que c'est une communauté pour sa communauté, c'est une communauté qui fait ça, celui qui veut il prend, celui qui veut pas
oui
il prend.
Voilà, il y a ça, mais quelque part, on se fait un dialogue de sourds. Hein. On se fait un dialogue, un monologue entre nous, quoi, finalement. C'est je te parle parce que tu comprends ce que je te dis, mais derrière, voilà. Mais sinon, effectivement, si derrière, il y a une vraie société qui met argent sur table, qui prend le truc à bras-le-corps, qui diffuse un message, un vrai message, celui du logiciel libre, celui qu'on défend, donc une éthique derrière qui est différente des logiciels propriétaires, également des équipes qui diffusent des logiciels libres, mais des logiciels plus puissants que les logiciels propriétaires, hein, que ce soit Photoshop pour la photo ou autre chose, effectivement, peut-être qu'on aura un système libre, ouvert, mais qui sera trois fois plus puissant que Windows, trois fois plus simple à gérer. Effectivement, peut-être que là, oui, on explosera Windows, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est sûr que si on se parle à nous-mêmes, on se parle dans une communauté, voilà quoi. Moi, c'est pas un reproche que je fais, hein. J'en fais partie, tu en fais partie. Si on parle dans ce podcast, C'est que quelque part, on se parle aussi à nous-mêmes. Oui. On ne va jamais parler plus loin que nos frontières, mais on défend aussi une certaine idée. Donc, ce sont un peu les trolls de manière régulière. Mais oui, mais j'en atteindrai jamais. Non, c'est pas possible. De toute façon, dans le monde où on est aujourd'hui et dans le monde dans lequel ça a évolué, toutes ces paroles que l'on dit aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine, dans 50 ans, je ne suis pas sûr qu'on les retrouvera exactement, qu'on retrouvera exactement pareil, parce que dans le monde où on est aujourd'hui, se défendre et se battre pour une liberté, c'est déjà quelque chose de super important, et je terminerai là-dessus. Bien voilà. Bah oui, mais bon, c'est un constat à faire, et c'est un constat quand même affligeant que je me fais de plus en plus tous les jours, et quelque part, je me dis que j'ai pas totalement tort. Donc voilà, et on finira là-dessus. Hein ?
Oui.
Ah ouais, on est bien, 1h30. On est très bien, on est très bien, 1h30.
C'est bien parce que j'avais dit en arrivant que cette fois l'émission, on arriverait à faire 1h, 1h10.
Ah bah non, pas du tout. Hein. Non, t'y pensais, oui, t'y pensais trop fort. C'était le 7e épisode de nos aventures libristes et libertaires. 7e épisode que j'ai réalisé en compagnie d'Alain. Merci Alain.
Merci Gislain.
Comme toujours. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que j'aurai moins de problèmes à monter l'émission et à l'uploader, hein, parce que la dernière fois c'était le vendredi quand c'est arrivé sur les serveurs. Donc voilà. Tous vos commentaires sur enflulie.tuxfamily.org, ça c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Et voilà. Et puis donc 8e épisode dans 2 semaines, si tout va bien. Donc on sera à la date, on est le combien aujourd'hui? Nous sommes le 27 février, donc ça sera début mars si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une excellente 2 semaines, tout simplement. Oui, ça se dit pas une excellente semaine, forcément dans notre format à nous. Un excellent 2 semaines. voilà, je le répète encore une fois. Alain, un petit mot de fin.
Excellente 2 semaines à vous tous.
Je te jure, celui-là. Et comme je le répète et comme j'ai l'habitude de le répéter, la bataille ne fait que commencer. Salut Alain.
Salut à tous et merci.
Ciao.